Alors, donc le Joseph Ratzinger dans Jésus de Nazareth montre que le fossé s'est élargi entre le Jésus historique et le Christ de la foi, et que les deux figures se sont éloignées l'une de l'autre à vue d'œil. Et ce qu'il mentionne, c'est que peut bien signifier la foi en Jésus-Christ, en Jésus le Fils du Dieu vivant, dès lors que l'homme Jésus est si différent de celui que les évangiles représentent. Que j'ai fabriqué. Bah, décidément, c'est vraiment. Bon, excuse-moi. Décidément, c'est bizarre ce casque aujourd'hui. On n'a jamais fait ça. Donc, ce qu'il mentionne, c'est qu'on ne peut pas séparer Jésus de l'évangile, donc Jésus incarné. Et celui que l'Église proclame aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose autour de présenter Jésus comme un tout. Et donc c'est ce que nous allons faire dans ce cours-là. D'une part, on va commencer par regarder le nom même de Jésus-Christ, qui aborde finalement et le Jésus de l'histoire et le Fils éternel du Père. Et puis ensuite, nous verrons dans une deuxième partie le concept de figure de Osan Balthazar, que j'espère que je vais assez vulgariser. Et ensuite, on va méditer sur les perpétuités des états de vie de Jésus avec Bérulle. Voilà. Alors, le nom de Jésus-Christ. Donc, la première fois où le nom de Jésus apparaît, c'est quand l'ange dit à Marie: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et donc là, on a bien à la fois Jésus, le nom de Jésus, et qui porte finalement non seulement l'enfant que va avoir Marie, mais fils du Très-Haut. Et puis la référence au trône de David. Et à son règne qui n'aura pas de fin. Donc, on a bien les deux dimensions de Jésus à travers ce prénom. Et une autre citation de l'Épître aux Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, là, on a bien le nom qui est au-dessus de tout nom, et on sait l'importance du nom chez les Juifs. Et on a bien ce nom de Jésus-Christ qui est à la fois le Jésus qui s'est incarné et qui est venu sur terre et le Seigneur à la gloire de Dieu le Père, donc il est bien la référence à sa divinité. Alors là, j'ai pris après des parties qui sont dans le catéchisme de l'Église catholique sur le nom finalement, et on a deux parties dans le nom, on a Jésus et Christ, donc on va commencer par Jésus. Donc Jésus, ça veut dire Dieu sauve. C'est le nom, donc on vient de le voir que dans l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne, qui exprime en fait à la fois son identité, Jésus est Dieu, et en même temps sa mission, il est venu pour nous sauver. Puisque Dieu seul peut remettre les péchés, c'est lui qui, en Jésus, son Fils éternel fait homme, sauvera son peuple de ses péchés. Donc en Jésus, on a Dieu qui récapitule ainsi toute son histoire de salut en faveur des hommes. Et donc c'est quelque part une association, une union entre la mission, l'histoire du salut et Jésus qui est le Fils du Père. Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils, puisqu'on a Dieu sauve. Voilà. Il est le nom divin qui seul apporte le salut et il peut désormais être invoqué de tous car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation. De telle sorte qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Donc on voit bien même que quand on parle de l'invocation à travers le nom de Jésus, ben en fait le nom de Jésus est puissant parce qu'il porte Dieu sauve. Donc c'est aussi parce que sa mission et son être sont complètement unis. La résurrection de Jésus glorifie le nom de Dieu sauveur, car désormais c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom. Et donc là, on a bien ce nom de Jésus qui amène avec lui tout Dieu, finalement. Donc le nom de Jésus, il est aussi très présent dans notre prière. Et on voit que toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans le « Je vous salue Marie », il y a « Jésus, le fruit de tes entrailles est béni », qui est le centre de la prière « Je vous salue Marie ». Et puis, on peut penser à la prière de cœur oriental, appelée « Prière à Jésus », qui dit « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauve Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». Voilà, et puis on fait référence aussi à Saint Jeanne d'Arc, qui est morte le mot de Jésus aux lèvres. Donc ça, c'était pour la partie plus Jésus. Et puis maintenant, si on passe à la partie Christ, tu me dis quand tu as des questions, hein, Arnaud. Allô ? Arnaud ? Ah mince. Et donc le Christ qui vient dans la traduction grecque du terme hébreu Messie, qui veut dire oint, il ne devient le nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. C'est intéressant de voir qu'à l'Annonciation, l'ange parle que de Jésus et pas de Christ. Et finalement, c'est quelque part, c'est par l'accomplissement de sa mission. Donc c'est comme l'autre face de l'accomplissement de la mission que Jésus devient Jésus-Christ, en fait. En effet, en Israël, étaient oints au nom de Jésus tous ceux qui étaient consacrés pour une mission venant de lui. Donc, c'était par excellence le cas, ça devait être par excellence le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son royaume. Et donc le Messie devait être oint par l'Esprit du Seigneur, c'est ce qui se passe au baptême, à la fois comme roi et prêtre et aussi comme prophète. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction. Et l'ange annonce au berger la naissance de Jésus comme celle du Messie promis à Israël. Donc là, c'est le pendant de la partie de l'Annonciation à Marie. Et Jésus, c'est aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et donc, on a bien dans les deux annonces des deux côtés, Jésus finalement est le Christ. La consécration messianique de Jésus manifeste sa mission divine. C'est d'ailleurs ce qu'indique son nom lui-même, car le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Donc là, on retrouve un peu la thématique où on dit aussi que Jésus est à la fois le prêtre, l'autel et la victime dans son sacrifice. Et là, on a la même idée sur cette histoire de... puisque celui qui a oint Jésus, c'est le Père, celui qui a été oint, c'est le Fils, et en fait, il a été dans l'Esprit qui est l'onction. Donc on a bien toute la Trinité qui est là dans cette onction. Donc Jésus-Christ, c'est intéressant parce qu'on a Jésus-Christ et puis le trait d'union, donc toujours l'unité entre finalement Jésus et le Christ, entre le fonctionnel et l'ontologique, entre la mission et le fait qu'il porte qu'il est de l'être de Dieu. La divinité est dans l'humanité, la chair et le Verbe sont unis, tout ce qui est dans Jésus homme est dans le cœur de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut affirmer que Marie est mère de Dieu. C'est bien parce qu'il y a cette unité, cette imbrication entre Jésus et Christ que Marie peut être dite mère de Dieu, parce qu'elle est la mère de l'homme Jésus qui porte toute la divinité en lui. Donc c'est ce que le concile d'Éphèse en 431 proclama, selon saint Cyril d'Alexandrie, qui dit ce n'est pas que d'abord un homme ordinaire soit né de la Vierge Marie et que ensuite sur lui le Verbe soit descendu. Mais nous disons que sorti du sein maternel, uni à la chair, il a accepté une naissance charnelle. Donc les pères du concile n'hésitent pas à appeler Marie mère de Dieu. Et l'expression doit être comprise non pas comme un culte ou comme... voilà, c'est ce qu'on vénère en Marie mère de Dieu. C'est vraiment le fait que par sa maternité divine, Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, vrai Dieu et vrai homme. Et donc c'est comme ça qu'elle peut être la mère de Dieu. Et donc, on n'a pas de séparation. Il n'y a pas eu un temps où il y avait Jésus l'homme. Et puis ensuite, c'est devenu Jésus-Christ le oint et celui qui a eu la mission. Et voilà. Non, de toute éternité, à partir du moment de l'incarnation et de l'annonce de l'ange Gabriel, on a Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. Alors là, je vais introduire la notion de la figure, qui est un concept assez riche. Qui va nous diriger aussi vers une étape un peu d'esthétique, en fait, parce que derrière ce concept de figure, il y a un peu un rapport comme on serait devant une œuvre d'art, en fait. Donc, dans la première préface de la Nativité, il est dit « Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. » Donc, on a bien ce concept de figure qui peut nous aider à comprendre ce rendu visible à nos yeux. C'est vraiment ça que ça veut rendre. Rendu visible à nos yeux et qui nous donne toute la connaissance de Dieu, en fait. Il vient et il apporte toute la connaissance à travers ce rendu visible à nos yeux. Donc, Urs von Balthasar, je ne te le présente pas parce que tu le connais. donc, il a avancé par rapport à Hegel, qui avait mis un concept qu'il a repris le concept d'Hegel sur l'universel concret pour montrer qu'au lieu de partir d'un homme et puis d'une chose abstraite, l'humanité, voilà, et puis il y a la divinité, etc. En fait, il y a un cas unique où la figure concrète réalise la totalité de la destinée humaine. Finalement, Jésus, il y a comme une concentration et une singularité qui fait que c'est une figure complète, en fait, quelque part. Donc, comme une complétude. Voilà. Et donc, cette christologie de l'unicité, organisée aussi autour du concept de figure. Donc, la christologie de l'évidence objective de la révélation, c'est dans la révélation qu'on a toute la figure qui se déploie, et tout est là. Donc, la figure n'est pas seulement le produit de l'histoire, c'est pas juste un événement qui s'est passé à un instant T. Elle acquiert sa dignité de figure à travers les approches convergentes de tous ceux qui ont reçu le choc de sa présence et nous ont transmis ce qu'ils ont reçu, apôtres, évangélistes, mais c'est aussi ce que nous, on en fait dans la prière, en fait. Et donc, cette figure, elle est vraiment une sorte de complétude, voilà, et elle se perçoit presque comme un bloc, en fait. Elle nous apparaît comme un ensemble de choses. Donc là, comme une figure, il y a un côté visible, et donc il y a une réalité qu'on peut apprendre de différents angles. Et donc, paradoxal, on pourrait dire que c'est paradoxal, puisque dans la figure, dans le cas du Christ, on pourrait dire que la raison, elle est un peu laissée elle-même. Elle se dit, c'est complètement contradictoire, on a un homme et on a Dieu, on a le Fils éternel, et puis on a quelqu'un qui s'est incarné dans le temps. Voilà, on a une histoire comme un fait, il y a eu des faits historiques, et puis une histoire qui est racontée avec toute une dimension de qui est mise avec une interprétation et tout un sens donné. Et on a une figure qui est à la fois complètement indissolublement le fond et la forme, le message et la manière dont il nous parvient, l'humanité de Dieu et la révélation dans la foi. Donc on a vraiment tout cet ensemble de choses qui unit finalement les contraires ou des choses qui pourraient paraître contradictoires. Et en fait, ce que nous dit ce concept de figure, c'est que c'est une réalité empirique, donc il y a un côté très concret. Voilà, c'est pas un concept, c'est pas une idée. C'est une réalité empirique, une réalité de chair. Il a pris chair et c'est important, mais avec un langage finalement, toute la médiation pour laquelle la connaissance se déploie. Là, on peut faire le parallèle avec, finalement, quand on connaît quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre d'abord par ce qu'il nous donne à voir, donc par son extérieur, puis après par sa parole, qui est aussi une forme extérieure de ce qu'il est. Et à travers ça, on va connaître un peu plus qui il est. Dans le Christ, c'est encore plus vrai, puisqu'il y a cette unité intrinsèque et cette simplicité au sens pas complexe, je veux dire, c'est pas l'inverse de complexe, mais simplicité au sens de tout est là, quoi, enfin tout est ensemble. Et donc c'est une connaissance qui du coup ne prend pas un cheminement intellectuel. On va pas finalement, la meilleure manière de rencontrer Jésus-Christ, c'est pas d'abord de réfléchir à il est ci, il est ça, il s'est passé ça, etc. Mais finalement, on va voir, on va entendre, on va contempler, voilà, et en fait, en regardant la personne de Jésus, la figure de Jésus, on va pouvoir se dire qui il est, et on va finalement, c'est là qu'on voit qu'on l'accueille ou non. Et c'est un peu la même approche que quand on est devant une œuvre d'art, où finalement, c'est d'abord tous nos sens et tout ce qu'on peut prendre de notre perception, mais finalement, c'est pas seulement nos sens. Quand on écoute une symphonie ou quand on regarde un tableau, c'est tout de suite aussi notre intelligence qui est là, notre raison, notre mémoire, notre cœur aussi, nos souvenirs. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, finalement, on la reçoit par les yeux ou par l'oreille ou par un sens, mais finalement, on la reçoit comme une totalité. Et on ne commence pas à découper quand on regarde un tableau. On ne dit pas d'abord, tiens, il y a de l'herbe verte à gauche. Ensuite là, ah bah oui, du coup, les proportions sont bien. Ah bah du coup, ça veut dire ça. Ah bah du coup, je comprends mieux la figure. Non, pas du tout. On voit le tableau. Puis après, à la limite, on peut aller regarder des choses. Mais c'est un tout qui se donne dans sa totalité. Et c'est comme ça qu'on la prend sens, en fait. Voilà. Et donc, dans cette, on n'a pas seulement, et là, en l'occurrence, par rapport au Christ, on n'a pas seulement une émotion esthétique. Donc, ce n'est pas seulement ça nous parle, mais aussi... quelque part ça fait écho à notre intelligence et puis à notre relationnel. Voilà, on ne rentre pas en relation avec une œuvre d'art, on rentre en relation avec Jésus. Donc a priori on ne commence pas par le décomposer et l'analyser, parce que finalement l'assemblage des détails ne va pas nous donner la figure du Christ. Donc tout compte, mais tout compte dans un tout, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le comprendre, par l'accueil. Donc ça suppose aussi de vouloir bien le voir, en fait, donc de l'accueillir. Donc on n'est pas dans une analyse démonstrative, mais plutôt dans une monstration. Et le propre de la figure, c'est qu'on a une exacte cohérence entre ce qui se voit et ce qui se comprend. Et donc le voir conduit au savoir, il faut que l'œil, l'oreille saisissent ce qu'il y a à voir. Et en même temps, le savoir vient aussi, va aider aussi l'œil à voir ce qu'il y a à voir. Donc on a vraiment cette association voir-savoir. Alors voir au sens large du terme, hein, parce que ça peut être c'est entendre, c'est plus large, c'est tous les sens. Et on a éminemment ça quand on est devant le Christ. Petite citation de Orson Balthazar dans La Gloire et la Croix. L'expérience esthétique unit la figure individuelle la plus concrète possible et la signification la plus universelle possible. Donc on a cette idée aussi de la totalité, quelque part, signification la plus universelle, qui arrive dans cette figure très concrète et très dimensionnée, en fait. L'incarnation de Dieu accomplit toute l'ontologie et toute l'esthétique de l'être créé dont elle se sert avec une profondeur nouvelle, comme d'une langue exprimant l'être et l'essence divin. Ce n'est pas ce que depuis Luther nous avons pris l'habitude d'appeler parole de Dieu, la Sainte Écriture qui est sa langue et son expression originelle. C'est Jésus-Christ, le seul et unique. Il est ce qu'il exprime, à savoir Dieu, mais il n'est pas celui qu'il exprime, à savoir le Père. Paradoxe incomparable, source première de l'esthétique chrétienne et donc de toute esthétique. Orson Balthazar a beaucoup développé une approche esthétique en disant que c'était une manière de... c'est une manière non facultative, comme il dit, d'appréhender le Christ et de le rencontrer. Voilà. Et donc là, quand on dit cette figure du Christ ou ce verbe, finalement, quand on utilise le mot verbe, on a un peu la même idée. C'est ce qu'il dit là. C'est pas seulement la parole de Dieu, donc c'est pas juste quelque chose qui nous est dit, mais c'est à travers ces paroles, c'est aussi tout ce que Jésus a vécu et tout ce qu'il nous donne à voir. Et donc c'est lui dans sa totalité qui vient là. Voilà, je voulais illustrer ça par une analyse sur la croix, où quelque part sur la croix, on pourrait dire qu'il y a comme une concentration de la figure de Jésus-Christ. Une telle concentration, finalement, toute la Trinité est là. Donc c'est le moment où on a le voile le plus épais, quelque part, puisqu'on voit un homme sur la croix, c'est peut-être ce qu'il y a le plus loin de Dieu. Et pourtant c'est là que ce voile d'humanité qui se dévoile d'ailleurs dans la nudité du Christ sur la croix révèle la divinité, et quelque part on a à travers ce visible qui pourtant ne devrait rien nous dire, qui est transpercé par l'invisible, et ce visible ne le dégrade pas mais le laisse complètement transparaître dans toute sa totalité, en fait. Donc le comble de la révélation divine se donne en plein dans la figure du Christ, précisément sur la croix, enfin de façon très concentrée sur la croix, et cela nous dépasse, parce qu'on contemple quelque chose qui est, et on est comme projeté au-delà. Et c'est au moment où il n'y a vraiment plus rien, où il semble qu'il n'y a plus rien à voir, où il n'y a même quasiment plus de paroles de Jésus, qui pourtant on a dit beaucoup, et bien finalement c'est là qu'il y a toute la Trinité, puisqu'on a l'acte d'amour du Fils qui se livre, qui correspond parfaitement à l'acte d'amour du Père qui le livre. Et il y a cette parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà, donc et le Père est éminemment là, pourtant Jésus nous montre ce vide. Et puis cette parfaite correspondance de l'amour du Père et du Fils qui est confirmée par le Saint-Esprit avec l'esprit que Jésus livre en fait sur la croix quand il remit l'esprit et qui ressuscitera après le Christ d'entre les morts. Donc l'esprit confirme par le fait même l'autorité divine de sa prédication et de ses gestes, justifiant du même coup l'assentiment total requis de la foi chrétienne. Et donc on a quelque part tout dans la croix, ça embarque toute la prédication, tous les guérisons qui étaient des guérisons partielles ou par anticipation. Des guérisons, je veux dire, du péché, et que le salut est là, et qu'on a ce point d'ancrage, et qui est celui qui va aussi nous irriguer pour toute la foi chrétienne, puisque c'est le cœur de la foi chrétienne. Et donc, c'est bien la bonne nouvelle que l'Église annonce à toutes les nations, l'Évangile de Dieu concernant son Fils, issu de la lignée de David, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. On a quand même concentré et qui est centré sur la croix finalement, parce que la résurrection n'est pas citée, mais c'est entre les morts et c'est bien la croix qui fait le point de passage et qui fait ce don qui est finalement un don trinitaire. Voilà, et je, notamment au pied de la croix, enfin l'image du centurion, enfin l'image, ce que dit le centurion, qui pourtant a dû voir des milliers de condamnés mourir comme ça, comme bien d'autres, qui manifestement n'a pas vu Jésus, enfin voilà, il s'était condamné comme un autre. Et ben au moment où Jésus expire, il est face à cet homme qui meurt sur la croix et il reconnaît le Fils de Dieu. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara vraiment cet homme était Fils de Dieu. Donc il y a quelque chose de cette incandescence, et pourtant le centurion, il était loin de tout ça, enfin il n'y avait aucune chance que, voilà. Et là il réalise, et peut-être que c'est le plus beau témoignage, il réalise que c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu qui était là. Voilà, et donc ça nous montre bien cette concentration. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais ça, c'est le plus central ou qui concentre tout. Alors ensuite, maintenant, on va partir sur une autre idée. On en était sur la totalité. Maintenant, on va partir sur l'éternité. Donc, c'est une autre forme de totalité. C'est dans le temps. Alors, finalement, on n'a pas accès à Jésus d'une autre façon que ce qu'il a donné, là où il s'est donné et de la manière dont il s'est donné. Et donc, tout ce que Jésus a vécu, en fait, a sens. Porte sens et tout nous rejoint finalement aujourd'hui. Donc dans chaque épisode qui nous est retranscrit par les évangiles, par la tradition, par des prières, par la méditation, par notre propre contemplation de Jésus, par les sacrements, il vient nous rejoindre aujourd'hui en fait. Donc ce que dit Bérulle, donc je vais lire le texte, un extrait de son texte sur les perpétuités des mystères de Jésus-Christ. Il faut considérer l'infinité qui y est communiquée par l'infinité de la personne qui les accomplit en sa nature humaine. Donc là, c'est parce que c'est l'infinité de la personne divine, qui est Jésus, qui les accomplit dans cette nature humaine, qui fait qu'elle peut être communiquée de façon infinie, en fait. Il faut peser la perpétuité de ces mystères en une certaine sorte, car ils sont passés en certaines circonstances, et ils durent et sont présents et perpétuels en certaines autres manières. Ils sont passés quant à l'exécution, mais ils sont présents quant à leur vertu, et leur vertu ne passe jamais, ni l'amour ne passera jamais avec lequel ils ont été accomplis. L'esprit donc, l'état, la vertu, le mérite du mystère est toujours présent. Donc là, c'est pas tout à fait le mot vertu comme nous on l'entend. Vertu, c'est comme une propriété, en fait. Voilà. Donc c'est parce qu'elles sont porteuses de l'amour et de tout l'amour de Dieu que finalement elles ne passeront pas. Voilà, un peu comme l'hymne à la charité de Saint Paul. Et donc ce quelque part on en touche toujours quelque chose qui est toujours présent. Cela nous oblige à traiter les choses et les mystères de Jésus non comme choses passées et éteintes, mais comme choses vives et présentes et même éternelles, dont nous avons aussi à recueillir un fruit présent et éternel. Prenons un exemple. L'enfance du Fils de Dieu est un état passager. Les circonstances de cette enfance sont passées, il n'est plus enfant, mais il y a quelque chose de divin de ce mystère qui persévère dans le ciel et qui opère une manière de grâce semblable dans les âmes qui en sont en la terre, qu'il plaît à Jésus-Christ d'affecter et dédier à cet humble et premier état de sa personne. Nous voyons même que Jésus-Christ a trouvé l'invention d'établir une partie de sa passion dans l'état de sa gloire en y réservant ses cicatrices. Car s'il a pu conserver quelque chose de sa passion en son corps glorieux, pourquoi n'en pourra-t-il pas conserver quelque chose en son âme, dans l'état consommé de sa gloire ? Et c'est par cette manière de grâce que les mystères... Mince, ça c'est le problème de ce truc-là. Et c'est par cette manière de grâce que les mystères de Jésus-Christ, son enfance, sa souffrance et les autres continuent et vivent en la terre jusqu'à la fin des siècles. Donc là, il prend des exemples comme l'enfance de Jésus. Voilà, on peut toujours méditer sur Nazareth. Et quelque part, c'est ça qui vient rejoindre aussi l'esprit d'enfance, enfin, et nous quand on est enfant. Et puis, il y a cet exemple de la passion. Donc, je vais le reprendre après dans l'ascension. En fait, dans le corps glorieux, il y a la durabilité du sacrifice puisqu'on a les plaies qui passent dans l'état dans le corps glorieux de Jésus, en fait. Et donc, tous les états... Et ce que dit Bérulle, c'est qu'en fait, tous les états de Jésus, et quand on relit un évangile ou quand on médite sur un passage d'un évangile, d'une scène de la vie de Jésus, bah en fait, on peut, quelque part, aller plus loin que juste relire ça comme un enseignement moral ou comme quelque chose, mais quelque part, on peut le revivre avec Jésus et percevoir, finalement, toute la vie de Jésus, le comprendre et le connaître, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour lui, c'est source de méditation parce qu'il y a cette forme d'actualisation et qu'on n'est pas juste dans une histoire racontée. L'exemple de l'ascension qui illustre parfaitement cela, puisque mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Et donc, il leur dit pas je vais m'en aller, mais je reste avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, on a bien cette double, il est présent, même si c'est différemment. L'événement à la fois historique et transcendant de l'ascension marque la transition de la gloire du Christ ressuscité, donc qui était un corps qui était encore visible ici-bas, à celle du Christ exalté à la droite du Père. Donc on a encore un changement d'état. Quelque part, on avait le Christ, Jésus avant la Passion, ensuite on a Jésus après la résurrection, qui est un corps glorieux, et puis ensuite on a vraiment le Christ exalté à la droite du Père, qui est encore dans un autre état. Et finalement, c'est toujours le même Jésus, celui qui siège à la droite du Père. Et par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Et donc, quelque part, c'est pas juste un passage éclair sur la terre et puis il a fait ce qu'il devait faire et puis ensuite il est retourné à son état d'avant. Non, maintenant il y a un corps en Dieu, en fait. Dans la Trinité, il y a un corps. Voilà. Et ça, c'est cette durabilité, cette éternité, c'est ce que dit Bérulle sur cette perpétuité des états du Christ, eh ben, elle est éminemment vraie là-dessus. Voilà. Donc il a apporté son corps au sein de la Trinité, et qui plus est, son corps crucifié avec la marque des clous. Et l'événement d'il y a 2000 ans se prolonge et est présent aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Finalement, c'est le Christ que nous sommes aujourd'hui, et maintenant et pour les siècles des siècles. Enfin voilà, il y a quelque chose de ça tout le temps. Voilà, et c'est pas juste une actualisation ou un souvenir ou une mémoire au sens premier du terme, mais c'est parce que celui qui est la vie et la vie en plénitude, ben quelque part il rend vive cette mémoire au sens pas juste vive, présente, mais si présente justement, mais dans toute sa dimension, quoi. Enfin dans toute sa présence, voilà. Même si c'est une forme différente. L'idée, c'est pas qu'il revit la même chose, mais c'est vraiment une vie au présent. Et puis, un deuxième exemple sur l'Eucharistie. Finalement, le don de l'Eucharistie nous rend présent Christ ressuscité avec toute sa vie et son mystère pascal. Alors, on peut être frustré par cette figure, parce que c'est un bout de pain, quoi, donc c'est pas très, très... Voilà. Et pourtant, ce qu'elle donne à voir, c'est incommensurable, puisque c'est une fenêtre ouverte sur la Trinité, sur Jésus, exalté à la droite de Dieu, du Père. Et en fait, cette figure, par son extrême simplicité, peut-être qu'elle nous arrête moins que la figure humaine, où on voit que les apôtres... Et les contemporains de Jésus, ils ont du mal à le reconnaître. Et même après la résurrection, ils avaient du mal à le reconnaître. Et finalement, peut-être que cette forme de pain, elle nous arrête moins et qu'elle nous projette immédiatement vers ce qu'elle révèle, en fait, puisqu'elle ne peut pas faire obstacle. Voilà. L'Eucharistie, en tant que mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, fait beaucoup plus que rappeler un événement passé. Elle représente sacramentellement un événement toujours actuel, puisque l'offrande d'amour de Jésus sur la croix était agréée par le Père et glorifiée par le Saint-Esprit. Et donc, quelque part, est devenue quelque chose de... Comme si, on sait bien que l'amour dans la Trinité, il est continuellement jaillissant. Là, c'est un peu comme si l'offrande d'amour, elle continue à jaillir. Cette offrande transcende le temps et l'espace, et à cause de la volonté explicite du Seigneur, elle demeure toujours disponible pour la foi de l'Église. Faites cela en mémoire de moi. Quand l'Église célèbre le banquet eucharistique, elle ne le fait pas comme si c'était la première fois. Elle accueille l'événement définitif, eschatologique, l'événement d'amour unique qui est toujours en train de se produire pour nous. Ce banquet de l'amour tire sa substance inépuisable du sacrifice d'amour du Fils de Dieu fait homme qui a été exalté et qui intercède toujours en notre faveur. C'était un congrès sur l'Eucharistique au Québec. Il y a des très beaux passages sur l'Eucharistie d'ailleurs. Et c'est vraiment cette... c'est toute la vertu, mais c'est l'Eucharistie, mais c'est... plus éminemment probablement parce que c'est la figure de Jésus, mais c'est aussi tous les sacrements avec cette idée de transcender le temps finalement pour venir nous rejoindre dans notre aujourd'hui et en même temps qui ne sera que définitif et complètement plaigné cette connaissance que lorsqu'on verra Jésus, quand on verra Dieu en fait, et ça c'est à la fin des temps en fait, voilà. Mais on a comme une anticipation de ça et on a déjà un accès à la connaissance, même s'il n'est pas complètement plaigné. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en conclusion, je pense que ce qui fait que Jésus peut être cette figure que nous décrit Ursin de Balthazar, ou c'est cette perpétuité que nous décrit Bérulle, c'est qu'il est un, en fait. Et donc, je disais au début, la simplicité de Jésus, il y a quelque chose de ça. C'est cette unicité, simplicité. Et donc, comme une œuvre d'art, Jésus, il se donne à voir et demande à être reçu dans sa totalité pour qu'on connaisse tel qu'il est. Mais plus qu'une œuvre d'art et mieux qu'une œuvre d'art, qui nous reste extérieure et finalement qui est éphémère et qui n'est pas relationnelle, Jésus-Christ se donne vivant au temps présent et pour l'éternité. Et donc, il vient demeurer en nous. Et en même temps, il reste extérieur à nous. Donc, on rentre en relation. Et c'est toute la thématique de la demeure. Que j'associe à cette idée de figure qu'on contemple, puisqu'il y a cette intimité en fait dans ce face-à-face qu'on peut avoir avec la figure de Jésus. Et cette intimité, elle est possible par cette totalité que Jésus, quand il est face-à-face avec nous, il se donne dans toute sa totalité, dans tout ce qu'il est et dans tout son amour. Et en face, chaque fois que nous, on l'accueille complètement et dans cette totalité, et qu'on essaye de le connaître et donc de répondre à cet amour, et bien finalement, c'est la demeure qui s'installe. Et quelque part, c'est cette intimité qui s'installe. Et c'est finalement dans la prière qu'on peut vraiment contempler le Christ, visible ou non visible, et on sait combien c'est quand même quelquefois plus facile de prier avec devant le Saint-Sacrement exposé par exemple, ou dans une église, ou dans un lieu où on a aussi du tangible parce qu'on en a besoin, et c'est comme ça qu'on peut vraiment devenir disciple et finalement un membre de son corps, qui est l'autre forme d'intimité. Le parallèle de la demeure, c'est d'être le corps, membre du corps du Christ qui est notre tête. Et après, j'ai mis deux textes qui, je trouve, éclairent aussi cette idée de figure de Jésus-Christ. Là est le sens de la Pâque. Elle nous enseigne que le chrétien dans l'Église doit mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et elle ne fait pas que l'enseigner comme on montrerait du doigt quelque chose que l'on ne tient pas en son pouvoir. C'est ce que faisait la Pâque de l'Ancien Testament. Elle l'opère. La Pâque, c'est le Christ qui est mort et ressuscité une fois, nous faisant mourir de sa mort et nous ressuscitant à sa vie. Ainsi, la Pâque n'est-elle pas une simple commémoration? Elle est la croix et le tombeau vide, rendu présent. Mais maintenant, ce n'est plus le chef qui doit s'étendre sur la croix pour se relever du tombeau. C'est son corps, l'Église, et dans ce corps, c'est chacun de ses membres que nous sommes. Et donc, l'actualisation et le présent de la Pâque, c'est aussi parce que si nous y adhérions, et si nous complétons quelque part dans notre chair notre petite contribution à la croix du Christ, là il y aura une. C'est aussi ça, l'actualisation. Donc c'est Louis Bouillet dans le Mystère Pascal. pianotexte de Saint Jean Eudes. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous a y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer à accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ses mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ses mystères, et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. C'est un langage un peu... On n'est plus habitué à la forme de langage, mais bon, je trouve que c'est quand même assez, clair et transparent. Et voilà, cette idée de contribution aussi et de participation à ces mystères de la vie du Christ et finalement à la vie du Christ, et qui est possible par sa grâce, par son salut qu'il nous a donné, et aussi par cette réponse que nous pouvons faire libre de bien vouloir l'accepter et du coup que ça puisse s'accomplir en nous en fait et aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire.